Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce vendredi matin est Axel Gourmelin. Il est militant insoumis, co-animateur du groupe d'action du pays de Paimpol. Il est avec nous en direct. Il est venu depuis la région de Paimpol pour répondre aux questions de la matinale et commenter l'actualité politique. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Lamont.
Alors, beaucoup d'actualités politiques en ce moment, une actualité politique plutôt axée sur l'international, avec cette guerre toujours aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, et ces tractations entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine pour essayer de trouver un accord de paix qui ne convient pas évidemment aux Européens, puisqu'ils se sont sentis quand même mis un petit peu sur la touche, y compris les Ukrainiens. Il y avait un sommet extraordinaire hier à Bruxelles pour réarmer l'Europe. Alors on va parler de tout cela. D'abord, quel est votre regard sur cette situation très tendue ?
C'est une situation qui fait peur, et on en parlera durant cette interview, mais c'est pas arrangé par le discours martial d'Emmanuel Macron, bien sûr. Et on peut pas accepter que la paix se négocie sans les Ukrainiens. C'est les principaux acteurs, ils doivent être autour de la table, on doit pouvoir leur offrir des garanties de sécurité, et c'est l'essentiel.
Alors on a eu cette violente altercation, on pourrait le dire comme ça, dans le bureau ovale, hein, entre Donald Trump et le président Volodymyr Zelensky, qu'on aurait aimé ne pas voir finalement. Ça aurait pas dû se passer devant les caméras, mais on a compris un peu la position de Donald Trump, de faire un peu le show et puis de montrer que c'est lui qui avait la main. Est-ce que c'est là aussi quelque chose d'assez déplorable, cette diplomatie qui s'effiloche comme ça devant nos yeux?
C'est ça, mais au moins ça envoie un message, c'est pas un événement anodin. Ça montre une stratégie de Donald Trump qui est de tout jouer par la force. Le droit international, tout ça, on le passe à côté. Et c'est le plus fort, donc dans sa tête, c'est lui, America First, America Only. C'est les États-Unis qui doivent décider. Et donc, utiliser tous les moyens pour affaiblir ceux qui pourraient se mettre entre son chemin, parce que c'était bien l'objectif de faire arriver Zelensky dans les négociations sur des positions qui étaient beaucoup moins stables. Zelensky le faire douter, le
piéger finalement.
Oui, bien sûr, et tout le monde a vu de quoi Donald Trump était capable pour servir son pays.
Alors Donald Trump a discuté avec Moscou, avec Vladimir Poutine, pour essayer de trouver cette paix qu'il appelle de ses voeux. Et c'est peut-être une bonne chose, évidemment, que la paix se négocie. Mais à quel prix? On voit un Donald Trump très, très allant sur une forme de conquête. Hein. On l'a entendu parler de Groenland, on l'a entendu qu'il ne veut pas lâcher, d'ailleurs. Il l'a redit hier en conférence de presse. Est-ce que c'est inquiétant aussi, cet esprit de conquête? On pourrait en dire autant de Vladimir Poutine avec d'autres méthodes plus guerrières, mais cette conquête, finalement, par l'argent aussi.
Oui, par l'argent, et puis une conquête. Au fond, il y a une séquence qui s'est ouverte avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022, qui montre qu'au final, les frontières sont plus aussi perméables qu'avant. Et il devient presque acceptable, ou du moins on ne lutte pas frontalement contre, qu'on franchisse des frontières, ce qui est contraire au droit international. Là encore, on doit s'en tenir au droit international, on ne franchit pas une frontière. Que ce soit Poutine qui ne doit pas franchir... Pardon, excusez-moi, qui n'a pas franchi la frontière de l'Ukraine. Après, on a vu Netanyahou franchir la frontière en Syrie, au Liban, sous l'indifférence générale. Et donc, forcément, Donald Trump se sent capable de le faire et menace d'annexer le Canada, le Groenland. Il veut s'approprier le golfe du Mexique, il appelle ça le golfe de l'Amérique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter que qui que ce soit franchisse une frontière, et ça doit être un de nos principaux mots d'ordre. Et on tiendra bon dessus, on est obligé.
Alors, on est obligé, hein, c'est le terme que vous employez. On a entendu aussi le président de la République s'exprimer d'un air grave, sombre même, à la télévision.
Martial,
En disant, voilà, il va falloir remettre au goût du jour le patriotisme, réarmer la France, réarmer l'Europe, et puis protéger l'Europe avec notre parapluie nucléaire, notre force de dissuasion, puisque les États-Unis, là encore Donald Trump à la manœuvre, nous tournent le dos en matière de protection et de sécurité. En gros, nous abandonnent et nous font sortir de fait de l'OTAN. C'est un discours guerrier qui est quand même très inquiétant par les temps qui courent et cette recomposition géopolitique.
Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le discours d'Emmanuel Macron. J'espère qu'on arrivera à parler de tous ces aspects.
Mais vous avez le temps.
Mais bien sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que Macron a parlé de la paix dans son discours. Il a dit qu'au final, dans le futur, il faudrait arriver à une paix durable. Donc c'est toujours l'horizon, on le repousse sans arrêt plus loin, et c'est maintenant qu'il faut construire la paix. C'est pas civis pacis parabellum. Moi, j'y crois pas. Si tu veux la paix, bah, tu prépares la paix, tu prépares pas la guerre. Et la guerre n'est jamais une fin, et c'est le message que je veux porter aujourd'hui. La guerre n'est jamais une fatalité. Ce n'est pas le moyen de résoudre les problèmes. La guerre n'amène que la guerre. Et si on veut la paix, il faut agir concrètement. Donc ça veut dire reconstruire un réseau de diplomatie. Moi, j'entends Emmanuel Macron qui veut se montrer comme ayant la solution pour tous les problèmes. Mais en attendant, c'est quand même la personne qui il pense se substituer aux diplomates, en fait. Il dissout le corps diplomatique. Comme ça fait moins de dépenses de l'État. Et puis, ça va être lui qui va régler les soucis. Alors, on a vu que depuis ses tentatives de discussion avec Poutine en 2022, même pour ça, il n'est pas très bon, Emmanuel Macron.
Alors justement, que faire? Parce que préparer la paix, voilà, ça veut dire qu'on a quand même en face de nous un Vladimir Poutine armé jusqu'aux dents, en tout cas il le laisse paraître, une diplomatie plutôt exsangue, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, un Donald Trump très va-t-en-guerre du point de vue économique. Comment faire pour arriver là aussi à un compromis de paix? Est-ce que l'Europe doit finalement s'armer diplomatiquement et pas forcément en armes de guerre, si vous me permettez le terme? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut travailler, ou est-ce qu'il faut quand même penser à s'armer pour dissuader le voisin russe peut-être de franchir le pas de la guerre?
À chaque crise, au final, on essaye de voir la suite et on espère qu'il y a une prise de conscience. Moi, j'espère que ce qui se passe avec les États-Unis de Donald Trump vont nous ouvrir les yeux sur notre dépendance et notre alignement constant sur les positions des États-Unis d'Amérique qui défendent, eux, leurs intérêts. Il n'y a pas de... Les États-Unis libérateurs, ça n'existe pas. Les États-Unis défendent leurs intérêts économiques, leurs intérêts militaires, leurs intérêts diplomatiques.
On le voit avec Donald Trump qui ne s'en cache pas, finalement.
Et de façon très, très cynique. Et c'est pour ça que notre position, hier comme aujourd'hui et encore plus pour demain, ça devra être d'être une France non alignée. Nous avons nos intérêts et nous devons construire la paix dans le plus d'endroits possible, mais on se fera respecter uniquement si jamais on n'est pas aligné sur aucune puissance. Non.
Donc voilà, essayer de garder cette indépendance, cette souveraineté. Alors c'est un mot qui revient un peu au goût du jour aujourd'hui, la souveraineté. On a entendu là encore Emmanuel Macron parler de souveraineté, de souveraineté européenne.
Et on en parle des grands principes évoqués et on ne dit jamais comment.
Voilà, alors c'est la question que j'allais vous poser. Comment garantir notre souveraineté? Là encore, est-ce qu'il faut garantir notre armement pour dire attention, venez pas nous embêter, on peut répondre? Ou est-ce que là encore, faut rester sur les positions et évoluer plutôt sur la chose diplomatique, essayer de discuter? Mais est-ce facile finalement de discuter avec Vladimir Poutine?
Non, et puis évidemment, la diplomatie, c'est notre principale solution face à la guerre, face à la menace de guerre. Mais en même temps, on doit se préparer pour que notre pays puisse se défendre. Et donc, j'entends parler d'étendre le parapluie nucléaire. La première des souverainetés en matière de défense de la France, c'est notre dissuasion nucléaire. Et comment étendre le parapluie nucléaire, c'est ça qui est proposé. Avec qui? Parce que si jamais on étend l'étendre au niveau de l'Europe, donc ça veut dire que si la Lituanie est attaquée par Poutine, on envoie l'arme nucléaire. C'est ça qui... Est-ce qu'on pourrait discuter sérieusement de ce qui pourrait se passer? Il n'y a pas de position de commune sur la politique étrangère en Europe. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez suivre l'Italie de Meloni, la Hongrie de Trump? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet de façon sérieuse. C'est grave ce qui peut se passer, et la France se défendra toujours mieux si jamais elle prend en compte ses intérêts et qu'elle défende son point de vue.
Alors vous avez fait un petit lapsus très intéressant. Vous avez dit la Hongrie de Trump. On aura compris que c'était d'Orban, voilà. Mais finalement, mais Donald Trump ou Viktor Orban, c'est les mêmes fonctionnements, ce sont les mêmes pensées, c'est le même populisme.
Et populisme, oui. Et c'est la pointe avancée du futur projet. Donald Trump ne délaisse pas les États-Unis, ce n'est pas vrai. Avec Elon Musk, ils ont un projet de propager leurs idées en Europe. Ce qu'ils délaissent, c'est l'Europe qui ne leur plaît pas. Mmh. Mais si jamais l'Europe était une Europe réactionnaire, acquise aux idées de l'international réactionnaire qui s'organise partout avec leur pointe avancée en France, notamment Jordan Bardella et Marine Le Pen, ça lui irait tout à fait. Et c'est à ça qu'il travaille. Mmh. Quand Musk intervient dans des meetings de l'AFD, un parti néo-nazi, qui ne se cache pas du fait qu'il est l'héritier d'Adolf Hitler, on voit très bien quelle est sa position. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est un lapsus intéressant finalement. Parce que la Hongrie de Viktor Orban, c'est la pointe avancée de Donald Trump en Europe.
Voilà, donc on a ce populisme qui monte, cette extrême droite qui monte un peu partout en Europe. Là aussi, c'est inquiétant pour la suite. Vous parliez de la suite tout à l'heure. Mmh. Et plus généralement pour la paix.
Évidemment, oui. Mais finalement, il a ses alliés en Europe. Mais le véritable drame, c'est qu'après tout ce qui se passe, j'ai pas l'impression que les États-Unis, enfin les pays d'Europe renoncent vraiment à leur lien avec les États-Unis. Aujourd'hui, c'est 55% des armes que les pays d'Europe, pardon, achètent qui proviennent des États-Unis. Et lorsqu'on nous parle des 800 milliards d'Ursula von der Leyen, le projet, c'est bien d'acheter des armes sur étagère, donc d'être encore dépendant des États-Unis. Donc on est dépendant quand on achète les armes, puis pour les faire réviser, pour les mises à jour, pour les logiciels. Donc finalement, sans vision claire, on sera toujours dépendant des États-Unis, et c'est pas juste dépendant des États-Unis, dépendant de leur volonté, dépendant de leur stratégie, dépendant de leur vision diplomatique, leur vision du monde, qui ne peut pas être la nôtre.
Alors nous, on a encore cette indépendance nucléaire avec la force de dissuasion, vous y faisiez référence tout à l'heure, et puis là encore, on revient au discours d'Emmanuel Macron qui parle de fabriquer des armes en France et de réarmer là encore la France et l'Europe. On a entendu, et vous y faisiez également référence, Ursula von der Leyen débloquer, alors je ne sais pas si c'est le terme, 800 milliards, c'est considérable, plus de 800 milliards d'euros pour pouvoir réarmer l'Europe avec des pays qui vont participer, les différents pays européens. Comment faire pour participer à hauteur de grosso modo 30 milliards pour la France, alors qu'on a un déficit important? Est-ce que c'est réalisable selon vous? Est-ce que c'est tenable selon vous?
J'aimerais bien qu'on nous dise comment est-ce qu'on va financer tout ça. Macron a été clair sur une chose, ça ne sera pas par l'impôt. Et si ça n'est pas par l'impôt, je suis d'accord, il n'y a pas d'argent magique. Donc qui c'est qui va payer?
Ce sont les Français qui vont payer, finalement.
C'est ça, j'ai peur. J'ai entendu un responsable Jeune Horizon qui était sur votre antenne hier dire qu'il ne fallait pas sacrifier tous nos services publics et notre système social. Mais qui nous dit lequel? Quel service public il va sacrifier? Ça sera l'école? Ça sera l'hôpital? Moi, j'ai entendu Edouard Philippe, sa position, c'est la retraite à 67 ans. Donc, qu'on parte sur des programmes clairs. Nous, vous savez ce qu'on propose. On propose la retraite à 62 ans. Et l'objectif 60 ans le plus rapidement possible. Eux, qu'est-ce qu'ils proposent pour financer la guerre? Et il faut réindustrialiser, on est d'accord. Donc par exemple, il faut renationaliser l'entreprise en ce moment qui fabrique, qui contribue à dissuasion nucléaire. Il faut nationaliser les entreprises stratégiques et il faut avoir une vision claire. Si jamais, comme Emmanuel Macron a fait depuis qu'il est au pouvoir, vous affaiblissez l'État en réduisant les dépenses, et forcément, vous avez une marge de manœuvre qui est beaucoup moins importante. Donc, il faut avoir une vision claire, il faut planifier, il faut avoir un état fort pour pouvoir avoir un horizon qu'on puisse rendre concret, finalement. Mmh. Parce que les mots, les principes, les grandes phrases sur la souveraineté, et au final, affaiblir l'État de l'autre côté et jamais arriver à nos objectifs, voilà comment on fonce dans le mur. Et finalement, c'est peut-être pas avec les responsables des problèmes qu'on arrivera à trouver la solution.
Alors d'un point de vue de l'armement et du réarmement et des dépenses militaires, on a entendu évoquer aussi cette possibilité d'un emprunt ou d'un livret A patriote. Mmh. Hein, voilà, je mets les guillemets. Est-ce que c'est finalement une bonne idée d'assurer nous-mêmes en payant nous-mêmes notre défense ou est-ce que c'est une fausse bonne idée?
Mais moi, ce que je vois, c'est donc bien l'État qui finance. Et c'est les entreprises qui vont s'enrichir derrière. Ça me rappelle une phrase d'Anatole France, on croit faire la guerre pour la patrie, et finalement on l'a fait pour les grandes entreprises. Et ces grandes entreprises qui sont très cyniques. Parce que dans un moment où on parle de notre souveraineté, Saadé, le patron de CMA-CGM, qui hier...
Voilà, Raphaël Saadé. Hein.
Saadé, oui. Qui bénéficie d'exonération d'impôts en France, et qui dans un moment où il y a un bras de fer entre l'Europe... Et les États-Unis a annoncé hier un contrat de 20 milliards d'euros qui va investir aux États-Unis.
Il était dans le bureau Oval d'ailleurs auprès de Donald Trump.
On a vu la belle photo de famille, mais on voit bien que il y a pas de grands patrons, d'actionnaires, de grandes entreprises patriotes. C'est pas vrai. Elles ne servent que leurs intérêts. Et finalement, dans un moment où le capitalisme voit ses rendements baisser, le moyen pour lui de faire des taux de profit supérieurs, c'est l'armement, c'est la guerre. Et moi, j'ai bien peur que... vous connaissez la phrase, on suit les pipelines, on suit les gazoducs, on suit les terres rares, et on voit pourquoi se déclenche les guerres. Mm-hmm. Et tout ça, tout le monde ne... Enfin, c'est pas une crise pour tout le monde, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui travaillent dans l'armement, qui voient ça d'un très bon œil, parce que ça leur permettra de faire beaucoup, beaucoup de profits.
Alors, avec quand même aussi nous autres, hein, qui sommes, j'allais presque dire, au bout de la chaîne, les Français sont très inquiets, on les entend à travers quelques sondages qui sont parus ces dernières heures dans la presse. Les Français sont très inquiets de ces bruits de guerre en Europe. On avait presque oublié l'idée même d'une guerre sur notre territoire. Il a fallu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou en tout cas cette tentative d'invasion pour que la guerre revienne en Europe. Est-ce que finalement, c'est trop endormi sur nos lauriers pendant presque 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on se dit, voilà, plus jamais ça, plus de guerre, on oublie et ça n'arrivera plus? Est-ce que finalement on n'a pas eu, le déclic pour se dire que la réalité pouvait être différente un jour?
Et encore une fois, on a posé des grands principes, ça, plus jamais ça, et on a très vite oublié, et on n'a pas agi concrètement pour qu'il n'y ait pas de guerre. On n'a pas amélioré la solidarité internationale, on a toujours plus... on n'a pas changé de système politique qui est quand même basé sur la loi, enfin de système économique qui est basé sur la loi du plus fort, sur la domination d'un sur l'autre, donc des logiques qui amènent forcément à des conflits. On n'a pas touché les dividendes de la paix. Et vous me parliez de cette inquiétude. À chaque fois que j'aborde ces sujets, je repense à une discussion que j'avais eue avec une dame au moment après le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec une dame qui avait son fils qui avait été envoyé dans l'est de l'Europe et qui avait peur. Et à chaque fois je repense à cette dame, et c'est bien ça l'essentiel. C'est un peu facile de parler de guerre comme ça sur un ton martial comme Emmanuel Macron l'a fait, et d'oublier les réalités derrière. La guerre, c'est d'abord des gens qui meurent, et pour des logiques, pas pour des grandes idées, pas pour défendre sa patrie, mais pour des intérêts économiques. Et j'oublie jamais ça. Mmh. Et donc faut toujours agir pour la paix, et quel malheur que la guerre.
Avec, là encore, une ambiguïté de Donald Trump, on y revient, Donald Trump, il est quand même le pivot, la pièce centrale dans ce qui se passe aujourd'hui, la volonté d'arrêter la guerre, il le dit, hein, il y a eu assez de morts, il y a eu assez de jeunes Ukrainiens qui ont payé, qui paient chaque jour de leur vie pour une guerre.
Un million de morts ou de victimes. Russes ou ukrainiennes.
Voilà, il faut rappeler le chiffre, ce qui vaut aussi du côté des troupes russes, voilà, qui envoient leurs jeunes à la guerre aujourd'hui. Est-ce que finalement, un mauvais traité de paix est mieux qu'une poursuite de la guerre? Est-ce que là aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que là aussi...
C'est pour me permettre d'y répondre.
Voilà, est-ce que là aussi, finalement, il ne faut pas arrêter tout de suite le conflit, le temps de la négociation pourra venir ultérieurement?
On a, c'est ça que je voulais dire quand j'ai parlé de cette discussion que j'avais avec cette dame. Il faut toujours avoir en tête le fait que c'est des gens qui meurent. Donc évidemment, plus vite la guerre sera finie, mieux ça sera. Mais on ne peut pas accepter une paix qui sera à n'importe quel prix. Parce que c'est bien ça, de ça dont il est question, quand on enlève l'Ukraine des négociations. L'Ukraine doit pouvoir avoir des garanties de sécurité. Nous, si jamais nous étions au pouvoir, si jamais c'est nous qui organisions tout ça, voici ce qu'on demanderait. Un cessez-le-feu déjà, pas une trêve, mais un cessez-le-feu. Mmh. On dépose les armes et on discute. Pas d'accord de paix sans l'Ukraine, ça je vous l'ai dit. Une consultation des populations qui sont concernées par l'accord de paix. C'est aux Ukrainiens de décider.
Mmh.
Et un droit au retour des populations déplacées. On ne peut pas accepter qu'à n'importe quel prix, l'Ukraine se fasse dépecer par des puissances qui défendent leurs intérêts et on soit là sans pouvoir y répondre.
C'est un petit peu, permettez-moi, je vais ramener encore l'ombre tout à l'heure du général de Gaulle, mais qui, au sortir
de... Qui plane sur ce studio.
qui, d'un point de vue de l'histoire en tout cas, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait refusé que les Américains mettent en pratique le fameux plan... allez, on va dire de paix, qui s'appelait l'AMGOT, qui était aussi un plan très financier avec des billets américains qui
bien
avaient
sûr,
été...
Rien n'est jamais gratuit avec les États-Unis.
Et on a un petit peu l'impression, alors dans d'autres circonstances et d'une autre manière, que c'est ce qui va se passer en Ukraine si ce traité de paix américano-russe arrive au bout, enfin en tout cas à son terme.
Ah, évidemment, c'est ça. Les États-Unis planent qu'ils vont retirer leurs troupes, mais dès qu'ils ont un intérêt, s'ils ne voient pas de résistance, ils profiteront de toutes les occasions pour exploiter ce qu'ils pourront. C'est évident, c'est une politique très cynique, mais au moins, on est prévenu, Donald Trump, c'est ses intérêts en premier.
Alors, les intérêts de Donald Trump, vous faisiez allusion tout à l'heure avec, évidemment, cette prise de position sur le Groenland, sur le Canada même, cette volonté politique aussi d'affaiblir les échanges commerciaux avec ces histoires de droits de douane qui ont été remis en place, en tout cas pour la Chine, le Mexique ou encore le Canada, avec des répliques, évidemment, des pays concernés. On a l'impression d'une politique de rouleau compresseur. On l'a vu aussi avec Gaza et cette idée de Côte d'Azur, à Gaza.
Quel drame.
Et on a l'impression que finalement Donald Trump évolue dans un monde de business et non pas dans un monde réaliste tel qu'on peut le connaître.
On craint quand même qu'il quitte l'ONU, qui est l'organe qui permet d'espérer une résolution des conflits de façon internationale. Donald Trump, c'est clair, lui, en accord avec Vladimir Poutine, voilà pourquoi ils peuvent discuter aussi franchement en ce moment. Leur position, c'est de défendre la loi du plus fort. Eux ne croient pas dans le droit international, qui est pourtant notre principal acquis contre les guerres, le droit, les traités internationaux, les accords à égalité. Et c'est pour ça que nous, on doit défendre des positions constantes. Moi, j'entends ceux qui se réclament du droit international en Ukraine et qui ne font rien pour qu'il se fasse respecter à Gaza. Si jamais on veut que le droit international perdure, il ne faut pas que ça soit à double standard. Parce qu'à partir du moment où il y a un double standard, où on ne traite pas tous les mêmes situations à égalité, il n'y a plus du tout de standard. Et après, l'Occident devient ridicule. Et voici ce qui plane. C'est
un retour des empires, finalement. L'empire américain d'un côté, l'empire russe de l'autre côté.
C'est évidemment ce qui plane sur nous quand on voit que ces deux empires qui essayent d'agrandir leur territoire sans se poser une seule question, un seul moment la question de ce que veulent les peuples.
Ça pose question. Alors on a aussi la Chine qui continue à commercer, qui n'a pas forcément envie qu'une guerre intervienne sur le territoire européen. C'est jamais bon pour les affaires, la guerre, en tout cas du point de vue de la Chine.
Mais l'ambassadeur chinois a dit qu'il se tenait prêt. Il se tenait prêt à une guerre, qu'une guerre, que ce soit économique ou une guerre militaire. Et finalement, c'est peut-être un peu ça aussi qui se joue en Ukraine. C'est qu'on a eu beau jeu de proposer des sanctions économiques sans se poser un seul instant la question des conséquences. En fait, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et Donald Trump, lui, a une vision claire toujours. On la critique, elle est très cynique, mais on sait ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est que son principal adversaire, ce n'est pas l'URSS, n'existe plus, ce n'est pas l'URSS, ce n'est pas la Russie. Son principal adversaire, que ce soit économiquement ou militaire, c'est la Chine. Et c'est le principal danger qui se place au-dessus de notre tête. C'est une guerre dans la zone Indo-Pacifique. Et tout ça, en fait, ça sert à décrocher la Russie des bras de la Chine. Avec, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit.
Avec aussi, on a entendu la France Insoumise par plusieurs de ses représentants s'exprimer autour justement du financement de la guerre, et en particulier ici en France, en prenant tout simplement les actifs russes qui sont bloqués, qui sont gelés depuis le début de la guerre en Ukraine, pour financer notre armement. Là-dessus, la France Insoumise dit, voilà, là encore, il faut respecter le droit international. On ne peut pas prendre ces actifs. C'est alors, quelque chose de grave si on les prend, ces actifs. Ça peut être un motif, justement, de guerre de la part de la Russie.
Déjà, il n'y a aucun doute sur ça. Nous sommes pour le gel des actifs, des avoirs russes. Et dès le début, on a dit que si jamais on voulait efficacement lutter contre l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il fallait s'attaquer aux possessions des oligarques russes, qui sont ceux qui soutiennent le pouvoir et qui permettent à Poutine d'être en position de force. Mais il y a ces positions de droit international sur lesquelles nous devons être constants. Si quelqu'un nous propose un plan, une base légale pour prendre ces actifs et les utiliser pour aider l'Ukraine, on pourra en discuter à ce moment-là. Et il faudra en discuter. J'en profite pour dire que Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de décider de tout. Il n'a pas la légitimité par le fait qu'il a perdu les derniers scrutins. Donc c'est à la commission de la défense et des affaires étrangères, à l'Assemblée, d'avoir des débats sur ces sujets-là, des débats avec les informations nécessaires. Et ces avoirs russes, donc il faut avoir, si on a la base légale, c'est possible. Mais moi, j'alerte toujours. Au final, tout ça, j'entends quand Attal en parle, c'est des effets d'annonce en fait. C'est de la communication. Donc Monsieur Attal est prêt à ce qu'on ouvre un précédent sans base légale, et que dans ce cas-là, demain, n'importe quel pays pourra prendre les avoirs, prendre l'argent d'un autre pays sans qu'il y ait aucun problème.
Voilà, s'ouvrir un peu la boîte de Pandore, selon vous.
Bah, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a plus aucune règle, en fait. Et ça peut être très, très dangereux. Il faut toujours réfléchir aux conséquences de nos actes. On ne rigole pas avec la politique étrangère.
J'ai envie de parler aussi un peu de politique française. Il nous reste 5 petites minutes. 4 petites minutes, nous dit notre réalisateur qui tient le chronomètre. On a une situation politique en France, on en a parlé très souvent à ce micro, qui est assez fragile finalement, avec la composition de l'Assemblée nationale qui n'est pas très tranchée. Est-ce que là aussi, dans ce moment de faiblesse politique, on n'est pas un peu sur un fil avec, là encore, ça nous ramène à cette guerre possible en Europe. Et si on n'a pas de stabilité dans le pays, comment prendre les grandes décisions finalement ?
Par l'appel au peuple, finalement. Emmanuel Macron, comme j'ai dit, n'a pas la légitimité du fait qu'il ait perdu les élections législatives. Il a perdu les élections législatives en 2022 déjà, il n'avait pas la majorité absolue. Il a perdu les élections européennes lourdement. Il a perdu les élections législatives qui ont fait suite à la dissolution. Il faut faire appel au peuple, il devrait démissionner, et si jamais il ne démissionne pas, nous on propose la destitution, qui est le moyen démocratique de résoudre la crise.
C'est pas un risque justement de déstabilisation ?
De faire appel au peuple ? Quelle solution vous proposez alors ?
Demander la démission d'Emmanuel Macron ?
Ben non, justement, la solution face à une crise, c'est de faire appel au peuple, sinon on n'est pas en démocratie. Si on pense que on pourrait se permettre dans un moment de crise de ne pas demander au peuple français qu'est-ce qu'il pense, quelle est sa solution pour sortir de la crise, on n'est pas des démocrates accomplis. Et justement, moi, je m'inquiète du fait que ça fasse beaucoup de bruit et des gens montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette solution. Enfin, c'est une solution évidente. Et moi, je voudrais dire, c'est ça. D'un côté, il y a la situation internationale qui fait pression et qui forcément crée des tensions. Et l'autre, jamais oublier la situation matérielle. C'est aussi parce que la politique d'Emmanuel Macron agrandit les tensions, les écarts de richesse. Il y a beaucoup plus de pauvres qu'avant qu'ils soient arrivés. Et tout ça crée une instabilité. Des gens qui... moi, je pense à eux, tous les gens qui sont en galère en ce moment et qui ne voient pas le bout de la lumière et à qui on promet des lendemains encore plus sombres du fait de la guerre.
Voilà, le constat est assez amer, hein, si je vous entends bien. Il y a aussi la discussion, le débat politique aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, il est très tendu, ce débat politique. Finalement, c'est le débat. Et puis, il y a parfois les dérapages. Alors, j'avais envie de vous entendre, parce que plusieurs de nos invités ici, dans la matinale, se sont exprimés après ces agressions qui ont eu lieu en marge d'une manifestation étudiante à Rennes, manifestation qui était à l'appel du syndicat de l'Union Pirate, des jeunes de l'autre syndicat, le syndicat de droite, l'UNI, ont été prises à partie. Alors, voilà, donc je vous laisse libre de vos propos, hein, mais ont été pris à partir. Il y a eu une échauffourée. Est-ce que vous condamnez finalement ces comportements, d'où qu'ils viennent du reste?
Alors, déjà, je veux répondre à oui, bien sûr, j'assume mes propos. L'UNI est un syndicat qui a soutenu Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022, donc c'est un syndicat d'extrême droite. La politique, c'est la manière pacifique de résoudre les conflits dans la société. Donc évidemment, on peut pas... Mais moi, je pense les violences qu'il y a actuellement, c'est ces étudiants qui font la file pour avoir l'aide alimentaire, c'est ces étudiants qui galèrent à trouver un logement, c'est ces étudiants qui ont peur du lendemain parce qu'on met moins de moyens dans l'université et qui ont peur de se retrouver sans filière. Moi, je pense d'abord à eux. Voilà la violence à laquelle on ne résout pas. Enfin, on ne répond pas.
Et c'était le mot de la fin, Axel Gourmelin, militant de la France insoumise, co-animateur du groupe d'action du pays de Paimpol, était avec nous ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous et bonne journée à tout le monde.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.